Bonjour chers auditeurs, bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Ravie de vous retrouver dans notre émission Au fil des notes sur Couleur FM 97.1. Nous allons parler, Marie, aujourd'hui d'un autre grand compositeur. Celui-ci est d'origine russe. Il s'agit de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Mais avant de raconter son histoire personnelle et son destin, nous aborderons rapidement l'histoire de la musique classique en Russie afin de mieux comprendre son parcours. En fait, la musique classique russe est apparue relativement tardivement en Russie. Depuis le XIXe siècle, elle est étroitement liée à ses débuts à l'orthodoxie. Cependant, elle a connu un développement dans tous les genres traditionnels de la musique classique. Et la révolution russe en 1917, avec le réalisme socialiste soviétique, ont amplifié sa singularité et l'ont confrontée à une problématique spécifique. Alors elle est donc étroitement liée à ce qu'elle a vécu politiquement en fait. Donc nous aborderons particulièrement la période du romantisme où apparut le grand Tchaïkovski.
Oui Valérie, les compositeurs russes de l'époque romantique se distinguent des compositeurs occidentaux par leur style très slave, mis à part Tchaïkovski, tout en gardant son âme russe. Il se rapproche plus que ses compatriotes de la musique européenne. Ce fut Mili Balakirev, sa fantaisie pour piano opus 4 est considérée comme une des plus difficiles du répertoire et une des rares œuvres encore jouées de nos jours. C'est lui donc qui créa le groupe des cinq, comprenant à part lui Borodine, celui qui a écrit et qui a composé les danses polodziennes du prince Igor, Moussorski, le tableau d'une exposition, La nuit sur le mont Chauve, Rimsky-Korsakov, son Scheherazade, et César Cui. Alors lui, c'est le moins connu des cinq, en France tout du moins, ce groupe qui devait développer la musique nationale russe. Mikhail Glinka est considéré comme le fondateur de la musique russe. Il naquit en 1804 et découvre la musique de grands compositeurs comme Rossini et rencontra Bellini et Donizetti. Il rencontre aussi Berlioz, Mendelssohn et travailla la composition musicale à Berlin avec Den, un élève de Beethoven. Rentré en Russie, il fit représenter son opéra La vie pour le tsar à Saint-Pétersbourg en 1836 et Russane et Ludmila en 1842.
Alors on connaît surtout ces opéras, hein, La vie pour le tsar, où l'on retrouve l'influence de Rossini dans l'ouverture et dans le dernier acte des chants du répertoire populaire, Russiane et Ludmila, inspiré de Pushkin, est imprégné du folklore slave dans ses danses et ses chœurs et contient des passages de musique orientale. Donc on est toujours sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et nous vous proposons d'écouter l'ouverture de Russiane et Ludmila, composée par Mikhail Ivanovitch Glinka. C'est un morceau léger et enjoué, enfin, je trouve. Thank you. Oui, je disais enjoué, enfin on dira plutôt dynamique. Hein.
Oui, très
c'est
dynamique.
C'est quand même assez rythmé. Donc Marie, nous avons très rapidement évoqué le fil de l'histoire de la musique classique en Russie. Maintenant, abordons, si vous le voulez bien, l'histoire de Tchaïkovski à proprement parler. Ce dernier est né à Votsinski en 1840 dans l'Oural et est issu d'une famille nombreuse de la petite noblesse non titrée, d'origine ukrainienne et cosaque. À 5 ans, il commence le piano avec Maria Palchikova. Et en moins de 3 ans, il lit la musique aussi bien que son professeur. Quand même remarquable.
Je crois, oui, tout à fait.
À 10 ans, il est mis en pension dans une école normale où les enfants font aussi du chant et de la musique. Et pour ce petit, qui est fragile et hypersensible, ce sera une expérience douloureuse et traumatisante. Sa vie n'est pas celle d'un jeune homme virtuose qui, très jeune, suit des cours de musique. C'est plutôt, je dirais, une histoire quelque peu atypique et surprenante.
Et en 1852, Piotr Tchaïkovski entre au Collège impérial de la jurisprudence et y demeure jusqu'en 1858. L'enseignement des arts n'était pas la priorité de l'école. Néanmoins, les élèves ont des leçons de chant et jouent d'instruments différents. Ils vont souvent à l'opéra, au théâtre ou à des concerts. Piotr Tchaïkovski dirige la section des sopranos du chœur de l'école sous la direction de Gavril Lomakhin, chef d'orchestre et professeur célèbre. Il lui arrive par exemple de chanter en solo lors de cérémonies liturgiques. Il est apprécié de tous malgré son manque d'ordre et sa distraction. Piotr Tchaïkovski reçoit donc une excellente éducation générale tout en poursuivant son instruction au piano avec le directeur de la bibliothèque des partitions. Mais ses résultats scolaires sont médiocres. Et on ne peut pas être bon partout.
On ne peut pas être bon partout, non. C'est clair.
Il se dirige progressivement vers une carrière musicale, chose courante à l'époque. De nombreux jeunes musiciens composaient et avaient un autre métier à côté.
Oui, Marie, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, en 1855, le père de Tchaïkovski finance pour son fils des études avec Rudolf Kundinger, professeur de piano de Nuremberg, connu, et le consultant un jour à propos des perspectives d'une carrière musicale pour son fils. Le pianiste répond qu'à part, une bonne oreille musicale et une bonne mémoire, bof, il n'y a rien chez Piotr laissant croire qu'il sera plus tard un bon compositeur ou même un bon interprète. Alors quand on se remet dans le contexte et qu'on voit ensuite ce qu'il a fait...
Il était peut-être pas suffisamment attentif, ce professeur.
Ça laisse un peu songeur, voilà.
Ah, oui. Et effectivement, Tchaïkovski fit ses études de droit à Saint-Pétersbourg tout en suivant des cours de musique au Conservatoire de la Vie.
Très atypique.
Oui. Il obtient son diplôme de droit le 25 mai 1859 et est engagé comme secrétaire au ministère de la Justice le 15 juin. Il s'adonne déjà en amateur à la musique.
Et il n'éprouve aucun intérêt pour son emploi au ministère, hein, on peut s'en douter d'ailleurs. Hein. Il confie à sa sœur, dans une de ses lettres qu'il lui écrit, « On a fait de moi un fonctionnaire, et un mauvais fonctionnaire par-dessus le marché. »
Oui, ça devait
pas
être facile.
C'est quand même frustrant pour lui.
Oui, tout à fait,
quoi.
Très frustrant. Oui.
Donc, nous allons écouter maintenant sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, l'extrait de la valse de l'acte 1 du Lac des Cygnes par le Philadelphia Orchestra dirigé par Eugène Omandi.
Thank you.
Le lac des cygnes, c'est très utilisé aussi comme musique en classique, en danse classique.
Oui, bien sûr.
Des professeurs.
Oui, toutes les petites filles connaissent la musique du lac des cygnes et rêvent de danser dessus.
Voilà, moi je me rappelle de mes souvenirs de petite fille.
Alors en 1861, notre ami Tchaïkovski commence à prendre des cours de théorie musicale à la Société musicale russe sous l'enseignement de Nikolaï Zaremba. Et l'année suivante, Tchaïkovski le suit au conservatoire de Saint-Pétersbourg, nouvellement fondé. Mais il ne veut pas quitter son emploi parce qu'il n'est pas certain qu'il ait fait pour une carrière musicale. Si jamais il avait entendu ce que son premier maître avait dit à son papa, c'est sûr que
c'est
il aurait
qu'il
eu
était des... pas. Voilà. Il avait le droit. Alors là, pour le coup, l'estime de soi, c'est terminé. Hein. Et finalement, Marie, en 1863, eh bien, il démissionne du ministère pour se consacrer à la musique. Il a bien eu raison, ce monsieur.
Oui, et depuis 1862 et jusqu'en 1865, il étudie l'harmonie, le contrepoint et la fugue avec Zaremba, la composition et l'instrumentation avec le directeur et fondateur du conservatoire, Anton Rubinstein. Il joue du piano, de la flûte et de l'orgue et obtient son diplôme de fin d'études en décembre 1865.
C'est pas mal tout ça.
Oui, c'est pas mal.
Rubinstein et Zaremba étaient impressionnés par le talent de Tchaïkovski. Mais cela n'a pas empêché les affrontements ultérieurs quant à la première symphonie.
Oui, et cette symphonie, elle était titrée « Rêve d'hiver ». Mais je crois qu'elle aurait pu s'appeler « Rêve d'enfer », tant sa composition fut à la limite de la dépression. Et en 1866, le compositeur et pianiste Nikolaï Rubinstein, le frère d'Anton, lui obtint le poste de professeur d'harmonie au conservatoire de Moscou. Il y rencontra le dramaturge Otrovski, auteur du livret de son premier opéra, le Voïvode.
Alors, il faut dire que Tchaïkovski est un compositeur éclectique. Hein. Son œuvre, d'inspiration plus occidentale que celle de ses compatriotes contemporains, elle intègre des éléments occidentaux ou exotiques, mais ceux-ci sont additionnés à des mélodies folkloriques nationales. Tchaïkovski compose dans tous les genres, mais c'est dans la musique d'orchestre, comme les symphonies, les suites et les concertos, qu'il déploie toute sa science et donne la mesure de son sens mélodique inspiré.
Et c'est également lui qui donne ses lettres de noblesse à la musique de ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre auparavant considéré comme mineur. Il incarne la figure dominante du romantisme russe du XIXe siècle dans toute sa vitalité populaire et généreuse et sa profonde sincérité.
C'est vrai, on le ressent dans ses musiques.
Oui.
Il est l'auteur notamment de 11 opéras quand même, 8 symphonies, 4 suites pour orchestre, 5 concertos, 3 ballets, 106 mélodies et une centaine de pièces pour piano. Vous nous excuserez du peu pour quelqu'un qui n'avait pas de talent. Alors, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et nous allons écouter donc un extrait du concerto pour piano numéro 1 interprété par Lazar Berman et le Philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan, le premier mouvement.
Thank you.
Ce concerto pour piano qu'il avait composé était initialement dédié à Nikolaï Rubinstein, qui l'avait jugé injouable. Décidément, le pauvre, il a quand même pas de chance. Profondément mortifié, Tchaïkovski remania considérablement l'ouvrage et le destina à Hans von Bülow, qui le créa à l'occasion de sa première tournée aux États-Unis vers 1875-1876. Et Rubinstein reconnut plus tard le mérite de la partition révisée et l'inscrivit à son répertoire, le brave. C'est gentil quand même,
oui.
Il est trop bon. Célèbre pour son premier mouvement dramatique et l'utilisation habile de mélodies de type populaire, il est devenu l'un des concertos pour piano les plus fréquemment joués.
Ah oui, il est magnifique ce concerto.
Très chouette.
En 1876, Tchaïkovski entama une correspondance suivie avec Nadeja von Meck, une riche veuve qui, enthousiasmée par sa musique, lui versa une rente annuelle qui lui permit de se consacrer entièrement à la composition. Tchaïkovski entretint avec elle des relations épistolaires, mais ne la rencontra jamais. Cependant, 14 ans plus tard, Madame von Meck, se croyant ruinée, cessa brutalement son soutien financier.
Bien dommage, il avait trouvé enfin un mécène qui croyait en lui.
Oui.
On dit qu'elle aurait cessé de verser cette rente, soit parce qu'elle avait appris l'homosexualité de Tchaïkovski, soit parce qu'il souhaitait recevoir cette rente mensuelle en une seule fois et elle n'aurait pas apprécié. Mais alors malgré tout, la période de sa relation avec Madame von Meck est l'une des plus productives de Tchaïkovski, il faut le dire.
Voilà, vous allez voir. C'est là que naquirent alors les opéras Eugène Onéguine en 1878, La Pucelle d'Orléans 1879, Mazeppa 1883, Les variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre en 1876 et le très très beau concerto pour violon en ré majeur en 1878, La Marche slave en 1876, La symphonie numéro 4 en fa mineur en 1877, Capriccio italien que j'adore en 1880, le ballet Le Lac des Cygnes en 1876, et c'est ainsi que le tableau de Degas, Le foyer de la danse à l'opéra, me permet de rappeler que la danse et la musique, au fil des siècles, ont toujours été étroitement liées et sont vraiment un langage universel,
ça, on est tout à fait d'accord sur ce sujet. Et dans l'intervalle, en 1877, Tchaïkovski, espérant apaiser les conflits intérieurs dus à son homosexualité, avait épousé Antonina Miliukova, une étudiante en musique au conservatoire de Moscou, qui lui avait écrit une déclaration d'amour et donc du coup il l'avait épousée. Mais dès le début, cette union fut un échec et le couple se sépara rapidement, ce qui le conduit au bord du suicide, le pauvre malheureux.
Alors je crois qu'ils étaient vraiment dans une période suicidaire parce que, en fait, il l'a épousée parce qu'elle menaçait de se suicider.
Oula.
Donc, j'ai l'impression
qu'il a quand même une vie bien compliquée, le brave
Tchaïkovski. Un jeu de ping-pong sur le suicide, c'est pas très agréable. C'est à partir de 1880 qu'arrive la consécration. Considéré comme le musicien national, quelle revanche, Tchaïkovski partage son temps entre la composition, de nombreux voyages et une petite propriété qu'il vient d'acquérir à la campagne. En 1885, il compose la symphonie Manfred, qui est probablement sa plus belle réussite symphonique. Tchaïkovski, se montrant très exigeant avec lui-même, a dû vraiment mettre la plus grande partie, et là je pense qu'il a laissé son idée de suicide de côté pour composer cette symphonie. À partir de ce moment, il va composer sans relâche. De 1885 à sa mort en 1893, la 5e symphonie, le ballet La Belle au bois dormant, 1889, Casse-noisette, 1891-1892, qui ont été chorégraphiés par le français Marius Petipa.
X fois aussi. Et aux environs de 1890, c'est aussi l'époque où il sera le plus hanté par l'idée de l'homme luttant contre son destin. On pourra dire que lui, il a lutté contre.
Ah, oui.
Et ce sera la magnifique mais sublime 6e symphonique en 1893, avec un premier mouvement tout empreint de douleur intense, une lutte sans merci contre la mort qui l'emporte à la fin du mouvement. Et dans le 3e mouvement, une lueur d'espoir semble renaître, mais le dernier mouvement sera un véritable requiem, la mort mise en musique. C'est magnifique de romantisme et de puissance suggestive. 9 jours après la première exécution, Tchaïkovski mourait du choléra, officiellement du moins. Des chercheurs ont en effet laissé entendre qu'il se serait suicidé sur ordre, à la suite d'une possible liaison avec un membre de la musique de la famille impériale. Évidemment, c'était pas le genre de choses qu'on aimait à cette époque-là. Il y a d'ailleurs à ce propos plusieurs versions concernant la mort de Tchaïkovski.
Oui, on dit même qu'il s'est empoisonné en buvant de l'eau non bouillie de la Neva.
On dit que même le film en préparation sur sa vie est fait abstraction par contre de son homosexualité.
Terrible.
Alors,
ça.
Pauvre Tchaïkovski, tant d'années plus tard, ce point de sa vie privée qui l'aura tant perturbé est encore censuré par le gouvernement de Vladimir Poutine, qui finance lui en partie le budget du film, mais il le finance à la condition que l'on n'aborde pas le thème de l'homosexualité de Tchaïkovski. Donc c'est quand même hallucinant. Viva la démocratie.
Alors, de 1887 à 1891, Tchaïkovski effectua plusieurs tournées triomphales, dirigeant ses propres œuvres devant des publics enthousiastes dans les grandes villes d'Europe et des États-Unis. En 1890, il donna l'un de ses opéras les plus achevés, La Dame de Pique. Dès 1893, de nombreuses compositions de Tchaïkovski, dont Casse-Noisette, le concerto pour piano numéro 1 en sol majeur, sont restées très populaires. Chez lui, des épisodes richement mélodiques ou profondément mélancoliques alternent avec des mouvements dansants issus de la musique traditionnelle.
C'est vrai qu'on le retrouve souvent ces mouvements dans cette musique.
Tout à fait, oui. Entré dès 1868 en relation avec le groupe des cinq, Tchaïkovski sympathisa avec Balakirev, ne se départit jamais d'une certaine méfiance envers Rimsky-Korsakov et manifesta toujours une franche hostilité à l'égard de Moussorgski. Contrairement à eux, il se tourna vers l'Occident, en particulier dans le choix de ses sujets.
Oui, oui, Marie, mais seulement Tchaïkovski se considérait, lui, comme russe que jusqu'à la moelle des os, quoi, c'est clair.
Oui.
C'était, pour lui, c'était son pays, c'était ses racines. Et Stravinsky devait voir en lui le représentant le plus typique de la musique de son pays natal. Un thème parcourt sa production, le destin de l'homme, la lutte de ce dernier pour en venir à bout et son échec final. Alors, parlons maintenant, Marie, si vous le voulez bien, de la fin de Tchaïkovski.
Oui, il meurt malheureusement le 6 novembre 1893 à Saint-Pétersbourg, dans l'appartement de son frère, 9 jours après la création de cette magnifique 6e symphonie, dite pathétique.
Et pour cause.
Il bénéficie de funérailles nationales, où de grandes familles russes suivent le cortège.
Oui, et son ami, le grand-duc Constantin de Russie, a écrit que les murs de la cathédrale n'étaient pas suffisants pour contenir ceux qui voulaient prier pour le repos de l'âme de Piotr.
Les frais de ses funérailles furent couverts par la maison de Sa Majesté impériale. Le chœur de la cathédrale et le chœur de l'opéra impérial russe accompagnent la cérémonie. Il fut inhumé au cimetière Tikhvine, du monastère Alexandre Nevski. Sa tombe se trouve aux côtés de celle d'Alexandre Borodine, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, Mili Balakirev et Modeste Moussorgski.
Reconnu sur le tard, malheureusement, mais pour revenir à cette symphonie, la pathétique, son innovation dans la forme et dans son contenu émotionnel accablant fut reçue la première fois avec un silence d'incompréhension de la part du public.
Et le plus étonnant, Valérie, c'est que 20 jours plus tard, sous la direction d'Edouard Napravnik, lors d'un concert en mémoire du compositeur, la symphonie fut reçue plus favorablement. Elle est devenue depuis l'une des compositions de Tchaïkovski les plus célèbres.
C'est incroyable quand même cette...
Et oui,
cette,
le retournement...
Le refus de la reconnaissance d'un virtuose, c'est quand même assez hallucinant. Comme quoi, tout ce... Dans la réussite, tout se tient aux gens qu'on rencontre et qu'on et qui croisent votre chemin en fin de compte.
Et je crois que c'est toujours pareil.
Malheureusement, oui. Et vous êtes sur Couleur FM, toujours pareil, 97.1, dans l'émission Au fil des notes. Et nous vous proposons d'écouter l'adagio de la symphonie numéro 6 par le Philharmonia Orchestra, sous la direction toujours du grand chef d'orchestre préféré de Marie, Herbert von Karajan. Bon, c'est tout simplement magnifique.
Très beau.
Très, très beau.
Émouvant, sensible.
Ah, c'est doux.
À écouter en fermant les yeux.
Voilà, boire du petit lait.
Voilà.
L'émission touche à sa fin, hein, et nous passons rapidement à la rubrique des petits potins du classique en Rhône-Alpes pour le mois de décembre, pour le mois de novembre, pardon. Mais avant ça, la petite citation, Marie.
Alors, c'est une citation de Robert Schumann qui dit « La musique est ce qui nous permet de nous entretenir avec l'au-delà ». Moi, j'aime beaucoup cette citation car elle s'applique à tous nos souvenirs, joyeux ou tristes. Qui n'a jamais dit « Ah, c'est notre chanson, c'était notre air favori ».
Eh ben oui,
voilà.
Oui, on est tous passés par là.
Merci, Monsieur Schumann.
Alors, ce qui se passera en Rhône-Alpes au mois de novembre, samedi 8 novembre 2014, Bach Scarlatti à la basilique Saint-Martin-des-Nez, Lyon 2.
L'ensemble vocal Stravaganza, programme Bach, le vendredi 14 novembre et le samedi 15 novembre, à la salle Olivier Messiaen à Grenoble.
L'Acmé Opéra de Léo Delibes, le samedi 22 novembre 2014 et dimanche 23 novembre, salle Albert Thomas, Lyon 3.
Le Cabaret Lunaire, samedi 29 novembre, salle Paul Lamy à Annecy.
Eh bien voilà, on a fait le tour des petits potins.
Oui.
Vous pouvez les retrouver sur notre site, dans la rubrique « Au fil des notes ». Elles y seront, si vous voulez prendre un petit peu plus d'informations.
Oui.
Tout à fait. Alors maintenant, Marie, pour terminer réellement l'émission, nous allons écouter le concerto pour violon ré majeur interprété par Takako Nishizaki et le Slovaque Philharmonique dirigé par Kenneth Jean.
Et je pense que tout le monde le reconnaîtra.
Allez, on se laisse aller?
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
À très bientôt.
À très bientôt.
Thank you.